Bonjour à toutes et tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ici pour la présentation par Philippe Craig de son livre « Le dessin de l'enfant, jeu, langage et thérapie » qui est paru donc fin 2016, en sachant qu'il avait déjà écrit un premier livre « L'enfant et son dessin, naissance de l'art et de l'écriture ». Alors c'est un grand honneur pour moi et une grande joie d'être ici pour présenter ton second livre. Alors là, il est question de l'art et de l'écriture. Là, il est question de la thérapie. Et dans le premier chapitre, tu nous montres comment les premières formes graphiques sont très liées au vécu corporel de l'enfant. Et donc déjà, je trouve qu'on retrouve les trois axes importants de ton travail, le corps, l'art et le travail thérapeutique. Et déjà, ces trois termes sont au cœur de toutes tes réflexions et de ton parcours, tant professionnel que personnel. Alors, au niveau du corps, une solide formation médicale, avec un vrai intérêt pour le corps, tant dans son bien-être que dans la maladie. Ensuite, une spécialisation en psychiatrie, grandement nourrie par la psychanalyse, et couronnée par ton mémoire, biologie, psychisme et culture. Cet intérêt pour le corps et l'esprit ne pouvait que t'amener vers la psychosomatique. Ainsi es-tu un passionné de Grodeck, sur lequel tu as rédigé tout un article dont une partie a été publiée dans un numéro spécial de l'ARC. Tu as aussi écrit des textes fort intéressants sur la pensée de Pierre Marty, non publiés. Du côté des enfants, tu as longtemps travaillé comme médecin psychiatre dans une équipe psychosociale exclusivement rattachée au service du juge pour enfants à Bordeaux. Et c'est fort de cette expérience que tu nous fais partager dans tes livres toute la finesse de ta compréhension clinique et en particulier ton repérage dans le dessin de l'enfant de son évolution psychique et dans ce second tome, beaucoup, de l'impact des carences et des traumatismes et de comment un processus thérapeutique peut advenir à travers le dessin dans le jeu transfert contre transfert. Enfin, dans le domaine de l'art, tu as su faire vivre tes racines familiales et leur permettre de se déployer. Tu as fait un doctorat en histoire de l'art, dont un des aboutissements est une passionnante thèse sur Joseph Lépine, peintre bordelais, auquel tu as su redonner toute sa place, y compris dans la merveilleuse collection de tableaux que tu abrites, qui montre une peinture de ce peintre lumineux et que tu sais nous faire partager avec ta générosité. Alors, ton livre est très riche d'une... Il y a une foison de réflexion et de compréhension éclairante dans ton travail. Peut-être qu'il y en a une que je trouve assez fondamentale, qui est tant chez l'enfant que chez l'artiste, cette façon dont tu nous montres que c'est leur réalité interne qui viennent nourrir leur œuvre, c'est-à-dire que l'œuvre est une projection de leur réalité interne. Voilà, et je te laisse la parole.
Merci Florence, merci vous tous de votre présence. C'est pour moi un moment de fête de vous parler de l'enfant, parce que le sujet de mon livre, c'est l'enfant. C'est plus exactement le grandissement psychique de l'enfant. Et le dessin est seulement mon outil de travail. Alors, c'est un outil quand même très, très important. Les grandes questions qui vont nous retenir sont ceux du sous-titre « Jeu, langage, thérapie ». Et puis, une quatrième question, les acquisitions, ou l'échec des acquisitions et le glissement vers l'illettrisme. D'emblée, nous allons nous mettre trois repères. Le bonhomme tétard, c'est le nom que l'histoire a donné à la première figure où tout le monde reconnaît un bonhomme, cette espèce de patate avec deux yeux et des filaments autour. Et c'est une figure qui arrive à 3 ans et demi en moyenne, c'est-à-dire au cœur de la petite section de l'école maternelle. Et au moment où l'enfant réalise cette figure tétard, il est capable aussi d'écrire son initiale. 1 an plus tard, il parvient à faire un dessin avec un bonhomme qui a une tête et un corps. Et cette structure avec tête-corps, il a donc 4 ans et demi, il l'accompagne de son prénom écrit complètement. Et nous sommes au cœur de la moyenne section de l'école maternelle. Et puis, encore un an se passe et nous arrivons au schéma corporel complet. C'est-à-dire que les membres, bras et jambes, ne sont plus de simples bâtons, mais ont le double contour, les bras ont des mains, les jambes ont des pieds, et le dessin est complètement habillé et différencié, donc avec le vêtement et la chevelure, évidemment. Et là, nous sommes au cœur de la grande section de l'école maternelle. Le moment où l'enfant connaît toutes les lettres, commence à en assembler quelques-unes et à écrire quelques mots. Je viens de vous dire à quel point le trajet essentiel de la petite enfance voit le croisement du dessin, de l'apprentissage de l'écriture et de tout le parcours de l'école maternelle. Mais c'est aussi vous dire que de 3 ans à 6 ans, c'est absolument le trajet édipien. Et c'est tout ce tissage parallèle entre le dessin et le cheminement global du psychisme de l'enfant qui m'intéresse. Alors c'est déjà un long chemin pour arriver au bonhomme têtard. Nous commençons avant, pendant les gribouillages, et je vous fais remarquer qu'aucun chimpanzé n'a jamais dessiné de chimpanzé têtard. Nous sommes dans un processus langagier spécifiquement humain. Alors, puisque nous sommes en plein dans les gribouillages, vers 2 ans, l'enfant, pas encore latéralisé, commence à tracer des gribouillages qui partent de l'axe de son corps vers la droite avec la main droite et de l'axe de son corps à gauche avec la main gauche. Et sur la feuille de papier se dessine en blanc, en négatif, une projection en verticale de l'axe de son corps. Alors vous voyez, c'est extraordinaire parce que le mot sens a un double sens. Il désigne la direction, ici c'est la verticalité, et il désigne la signification, il appelle le sens. Et tous les tracés vont être chargés de cette double polarité. Nous sommes dans le graphisme avec des directions, mais à peine émerge quelque chose du gribouillage, et c'est du sens psychique qui apparaît sur la feuille. 6 mois plus tard, vers 2 ans et demi, eh bien, on n'est pas étonné de savoir que le premier trait de l'enfant sera un trait vertical, comme l'axe qui était en blanc. Et il se met à faire quelquefois de pleines pages de traits verticaux, avant de faire les traits horizontaux. Encore 6 mois, et nous avons le tracé du rond qui est extrêmement connu, qui a été repéré, le tracé du rond à 3 ans depuis que Thurman Merrill et puis tous ceux qui ont suivi les travaux sur les QI et les datations des critères pour les QI. Et il y a une association forte entre 3 ans et la fermeture du rond. Mais il y a une autre association forte. Au moment où l'enfant est capable de fermer un rond, il y a longtemps qu'il avait plaisir à poser sa main sur la table et à faire le tracé de sa main sur la feuille de papier. Et au moment où il ferme le rond, il a un besoin compulsif de rajouter ensuite la fermeture de sa main au poignet. Et alors ça se termine comme la main de Pif, comme celle de Touche pas à mon pote, comme celle des mains de Fatma qui s'accrochent à un collier. Il y a une association forte entre le corps et ce tracé fermé de la main, une condensation du corps tout entier sur le tracé de la main, et finalement une condensation du corps tout entier sur le tracé du rond refermé. On constate alors que le gribouillage primaire aboutit à deux formes graphiques différentes de notre identité. Il y a très tôt la marque de notre verticalité, celle du corps qui devient verticalité psychique, identité phallique et narcissique, prolongement total de l'assomption jubilatoire du sujet, vous savez, au stade du miroir. Et puis il y a l'accès plus complexe de la figure fermée, avec la compréhension d'une fonction contenante, un sentiment d'intériorité qui s'associe physiquement à notre limite corporelle, ce moi-peau, comme l'a conceptualisé Didier Anzieux. Alors ensuite, les travaux les plus anciens se sont fixés, il fallait qu'il y ait le rond, à une première figure qui ressemble à un soleil, un rond avec des tas de rayons, mais à un âge autour de 3 ans, donc où il n'y a aucune figure figurative, l'enfant n'a jamais évoqué le soleil, n'a jamais prononcé un tel mot. On a donc classiquement parlé de figure rayonnante. Et alors l'expérience psychanalytique du jeu de l'enfant m'a beaucoup aidé. Je crois que je n'aurais pas pu trouver quelque chose sur le dessin de l'enfant sans être passé par là. Alors on constate d'abord l'enfant qui frange de pleines feuilles de papier ou ciseaux, ou des feuilles rectangulaires, ou des dessins qu'il a déjà prédécoupés. Et on voit bien qu'il s'agit d'un jeu à franchir tout le tour. Et à ce moment-là, on découvre un second jeu qui consiste à remplir. Alors c'est aussi un jeu qui se fait ailleurs que sur le papier. Remplir des récipients, une soucoupe de cailloux, de glandes, remplir et vider et re-remplir. Et dans ce rond qui vient d'être fermé, remplir de pointillages ou même de gribouillis très, très, très informels, mais avec la règle de bien mettre dedans et pas à côté. Plus on regarde l'enfant opérer son jeu, plus on le voit répéter et ne pas faire n'importe quoi. Alors, nous avons vu le jeu à fermer le rond, le jeu à rayonner, à franchir tout le tour, le jeu à contenir. Et on comprend bien que la figure tétard a pour caractéristique de réunir ces différentes propriétés ensemble. C'est ce que fait l'enfant très rapidement. Il est facile de voir des séries dans la même consultation ou dans la même après-midi de jeu où l'enfant fait à la fois des figures rayonnantes, des figures contenantes et ses toutes premières figures tétard. Mais pour parvenir véritablement à la figure tétard, on a besoin d'un quatrième déterminant. Il y faut les deux yeux. On n'a pas besoin du nez, on n'a pas besoin des oreilles, on n'a pas besoin de la bouche. Mais il y faut les deux yeux. Ce fait est d'autant plus saisissant que dans l'expérience de l'enfant, l'échange des regards et des sourires a noué le premier dialogue avec la mère. Bien avant le langage verbal, ce face-à-face a été la source même de l'installation du processus d'attachement. Spitz a décrit ce moment comme premier organisateur dans l'évolution de l'enfant. Il a prolongé l'observation jusqu'à l'expérimentation avec le masque et constaté que seule sa présentation de face avec les deux yeux, jamais de profil, avec un seul œil, le cercle fermé et les deux yeux, provoquer le sourire de l'enfant. Et nul besoin de représenter la bouche ou le nez sur le masque. La configuration de cette relation inaugurale de l'enfant est la même que nous retrouvons à l'entrée du langage graphique, les deux yeux à l'intérieur d'un contour clos qui permettent de découvrir la figure humaine. Alors, l'inattendu ici nous rejoint. Ce graphème des deux yeux, à poser sur n'importe quelle figure, introduit le jeu de l'anthropomorphisme. Ajouter les deux yeux sur la calandre de la bagnole, sur la porte du frigo, ou deux étiquettes sur la même orange, et nous avons déjà la figure humaine. Alors, bien sûr, nous comprenons ceci comme un transfert d'attachement maternel. Mais l'un des caractères les plus passionnants est son fonctionnement superposable au phénomène transitionnel de Winnicott. Alors, je ne vous rappellerai pas le travail de Winnicott sur l'objet transitionnel. Je vous dirai son prolongement lorsqu'il reprend son article d'enjeux et réalités, et que dans quelques prolongements, il parle de mi-extension. Ce mot qui fait bien comprendre que l'espace transitionnel de Winnicott est un lieu où le sujet se projette dans quelque chose d'extérieur. C'est une extension de l'enfant lui-même. Le doudou n'est rien d'autre qu'une poupée ou même un chiffon. L'orange n'a rien de moi. C'est moi qui me projette mi-extension. Et Winnicott a eu le souci de préciser, parce qu'on dit toujours qu'il est très empirique. Dès son article Princeps de 51, le mécanisme des phénomènes, il parle de la projection de ce qui a déjà été introjecté, l'extériorisation de ce que l'on a déjà intériorisé, le détour même que l'on constate dans le dessin de l'enfant. Au début de la vie, on vient de le voir, l'enfant a intériorisé l'expérience de l'attachement dans l'échange des sourires avec sa mère. Il extériorise maintenant ce premier vécu de la relation maternelle avec le graphème des deux yeux, apportant à toute figure la force et l'évidence du visage humain. Ce processus déborde aussitôt sur toutes les autres figures. La maison, par exemple, impose sa classique façade, ce mot qui dérive de face, avec deux fenêtres qui nous regardent et la porte en place d'une bouche. Et toutes sortes de motifs se chargent aussi des deux yeux, le soleil, la lune, les arbres, etc. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la figure de la maison pour la couverture du livre, puisqu'elle est l'exemple idéal de la projection anthropomorphique dans le dessin de l'enfant. Alors, nous en sommes arrivés au bonhomme têtard avec un schéma qui comporte l'axe vertical, la fermeture du rond, les deux yeux et quelques prolongements. C'est vraiment très peu de choses par rapport à tout ce que l'enfant sait de son schéma corporel et désigne. Il sait qu'il a un corps en même temps qu'une tête, il connaît son nombril, il connaît le nombre et le nom des doigts de sa main et ses vêtements. Je suis frappé par la longue indifférence de l'enfant à la ressemblance réaliste. Et c'est une chose essentielle, car cette observation concrète se prolonge d'une autre. L'enfant qui dessine n'est jamais, comme l'artiste, quelqu'un qui est en va-et-vient entre le sujet qu'il regarde et le papier où il essaie de reproduire. L'enfant qui dessine maman ne regarde pas maman, hein, et lorsqu'il dessine la maison, qu'il habite dans un immeuble HLM, dans les maisons jointives d'une rue bordelaise ou dans une chaumière isolée, il aboutit toujours à ce même schéma dont nous comprenons maintenant que c'est bien une figure de visage, parce que l'expérience de la maison apporte la même sécurité que celle de maman quand elle s'occupe de moi. Alors, cette expérience de son dessin, je projette un rond, c'est-à-dire quelque chose, une identité. Cela devient un personnage lorsque j'y mets les deux yeux. Et voilà qui apporte à ma figure de l'intériorité. Et en ajoutant les petites pattes, j'aboutis à mon bonhomme tétard et tout le monde reconnaît un bonhomme. Et nous répétons qu'il a dessiné un bonhomme. Mais il s'agit tout aussi bien d'un premier idéogramme. Le pictogramme du bonhomme, la première façon d'écrire bonhomme avec les quatre caractères du bonhomme. Et si nous pourrions croire que c'est un idéogramme, le premier idéogramme qui désigne le bonhomme dans les écritures les plus anciennes de Patagonie. Une vérification s'impose là. Si ce que je viens de vous dire est vrai, si l'enfant ne fait qu'extérioriser dans le dessin des expériences totalement psychiques et intériorisées, alors pour imaginer la limite, l'intériorité, l'extériorité, il n'y a aucune différence dans cette expérience affective et psychique entre un enfant doué de vision et l'expérience d'un aveugle. Je dois vous dire que j'ai mis beaucoup de temps à me poser moi-même cette question. J'ai mis encore pas mal de temps avant de trouver la réponse. Mais je l'ai trouvée, parce qu'il y a des gens qui, travaillant avec des aveugles, ont fait, il y a quelques années, des expériences où ils ont proposé des papiers qui marquaient bien avec des stylobies sur une couche un petit peu plastique où ça s'enfonçait, qui permettait un contrôle tactile. Et Annie Winter affirme que ses études avec les aveugles, je la cite, « montrent que le dessin ne nécessite pas de capacité visuelle ou d'expérience visuelle. » Et j'ai trouvé ensuite un petit passage de Françoise Dolto dans L'enfant du miroir en 87, à la page 48, qui remarque aussi qu'il arrive aux enfants aveugles de graver sur la pâte à modeler mise à plat. Et je cite là aussi Françoise Dolto, « et ils obtiennent ainsi, avec la même maîtrise que celle des enfants voyants, de vraies images du corps qui se projettent dans leur graphisme. » Nous parlons donc de l'expérience psychique. Et je vais conclure très vite cette première partie. Je vais vous dire que cette expérience est la même avec le langage verbal, avec le langage des sourds-muets, le langage des signes, et avec le langage graphique. Et que dans les trois cas, c'est avec le même couple de la pulsion et de l'attachement, la pulsion avec ses prolongements qui traversent tout, et l'attachement avec ce désir de tout contenir, et avec la nécessité de réunir ces deux choses. C'est là que l'on aboutit au langage. Et alors je vous dis, l'enfant est polyglotte, il a nécessairement ces trois langages. Mais bien sûr, c'est le langage verbal qui est la priorité de notre communication. Alors peut-on déjà, à 3 ans et demi, s'émerveiller ou s'inquiéter à l'âge du tétard? Mais je vais d'abord vous donner un chiffre. J'ai consacré à peu près la moitié de mon exercice professionnel à cette activité de consultation avec les juges pour enfants dans des situations qui étaient quand même souvent assez misérables, assez précaires au niveau psychique et social. Et lorsque j'ai rassemblé un assez grand nombre de situations, de bilan à 3 ans et demi, la réponse a été claire. À 3 ans et demi, dans cette population, des enfants qui dessinaient une figure tétard, j'en ai eu zéro. 0%, zéro en tout, zéro. Aucune. Je vous dirai la suite un petit peu plus tard. Par contre, dans une classe de petite section de maternelle, on finit par trouver 10 à 20% de la classe qui fait des figures avec tête et corps au cours de la petite section. C'est dire l'immense écart qu'il y a dès cet âge extrêmement précoce. Alors ensuite, je vous laisserai essentiellement vous émerveiller parce que la richesse et l'invention précoce restent méconnues à cet âge-là. Et avec la figure tétard, on peut faire des familles de figures tétard, on peut avoir des histoires de figures tétard. J'ai par exemple présenté tous les dessins pendant 2 mois de la petite Laure qui aboutit à son premier tétard à 2 ans et 9 mois. Et c'est extraordinaire. Alors on trouve évidemment les figures rayonnantes, les figures contenantes en même temps que les premières figures tétard. On voit par exemple papa qui joue à la balançoire. Le mouvement est évoqué par un gribouillage plein d'élan. Et puis en haut, il y a une figure fermée avec les deux yeux. Par exemple, je vous laisse découvrir la richesse et je vous laisse surtout la découvrir autour de vous. Autour de vous, dans vos familles, dans vos amis, vous verrez, soyez étonnés, invitez, demandez ce qui est dessiné et vous aurez de très agréables surprises. Alors ensuite, nous passons à l'étape du tête et corps et tout semble une évidence, n'est-ce pas ? Il y avait la tête et on rajoute le corps. Je l'ai pris longtemps moi-même pour une évidence. Pourtant, deux choses ne sont pas évidentes. D'abord, le temps qu'il faut pour y arriver. Il faut 1 an à l'enfant. 1 an pour ajouter le corps en question. Que le corps, hein ? Il y a toujours des bras et des jambes bâtons. Juste le corps. Et puis le résultat est étonnant. On est parti avec la patate, ce qui était simple. Et alors on pourrait imaginer qu'il suffirait que l'enfant rallonge le corps, qu'il passe à la carotte ou au salsifis, comme vous voudrez, qu'il ajoute le nombril, qu'il rétrécisse un petit peu au niveau du cou. Cela n'arrive jamais, ou plus exactement, les cas exceptionnels où ça arrive, cet allongement du corps, c'est toujours dans des situations gravement pathologiques. Alors, cette évidence du tête et corps est en réalité une révolution. Après avoir eu tout cet effort de rassembler en une figure, le bonhomme tétard, la figure rayonnante et la figure contenante, eh bien, il faut maintenant les séparer. Seul le visage va être contenant et c'est le corps qui va être rayonnant, des bras et des jambes. Et pour aller un petit peu plus vite en besogne, l'étape du tête-corps commence par l'incroyable clivage du corps, mais aussi du monde. Parce que ces deux figures, rayonnantes et contenantes, Elles se sont rassemblées pour donner la figure humaine. Mais séparées, la figure contenante donne la maison et la figure rayonnante donne l'animal, en tout cas l'animal sauvage, parce que le chat de la maison, il a une figure anthropomorphe, comme le petit frère ou la tata. Et petit à petit, on s'aperçoit que les figures contenantes restent des figures de face et que la figure de l'animal glisse immédiatement de profil et qu'elle va rester de profil comme la totalité des choses pulsionnelles, notamment les machines, les moyens de transport, les voitures, les bateaux, tout ça. Nous aboutissons un clivage qui porte sur le sujet lui-même, mais qui porte finalement sur la totalité de la représentation. Alors, ce qui va nous éclairer, ce qui va nous commencer à nous faire comprendre ce qui se passe, c'est la découverte d'images que j'ai d'abord appelées atypiques, d'images où le corps et la tête sont séparés ou alors réunis avec un fil, là, comme si c'était compliqué, difficile, ce qui doit être le cas. Et ces images, elles ont des défauts qui arrivent au bon moment, mais pas dans la bonne population. Elles arrivent au bon moment parce qu'elles arrivent très typiquement au moment où l'enfant rentre avec difficulté, avec cette figure, avec tête-corps. Et elles arrivent pas dans la bonne population, parce que c'est étonnant, c'est un défaut que l'on voit avec abondance chez les enfants qui ont précocité, qui sont en avance surtout, qui se débrouillent très bien. Et elles sont totalement absentes chez les enfants qui ont plus de difficultés. Un défaut qui n'arrive que chez les enfants futés. D'abord, un petit constat sur 2000 dessins spontanés rassemblés dans deux classes maternelles de moyenne section. 1000 dessins sont des dessins de personnages. Il y en a 4% où il y a la tête et le corps séparés ou simplement réunis par un fil. Et 40% des enfants des deux classes, la moitié dans l'une et un tiers dans l'autre, réalisent à un moment donné, au tout début de leur passage au tête et corps, des figures de ce type. Donc, la plus grande partie, parce que tous les enfants précoces, ils l'ont fait l'année d'avant, la plus grande partie des enfants fabriquent cette coupure, ce clivage de la tête et du corps. Mais c'est très court. Et du coup, les 40% d'enfants ne donnent plus que 4% des dessins. C'est un passage très court. Alors, cette étape du tête et corps, cette étape du tête et corps, il faut quand même que je vous en dise l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est de dire que c'est au cœur de l'histoire de l'Édipe. C'est au cœur de l'histoire de l'Édipe parce que il faut éviter le mélange de l'attachement et de la pulsion. Et c'est l'attachement qui est nettement lié à la figure contenante et la pulsion nettement liée à cette traversée des traits. C'est certainement dans cette direction que l'on peut comprendre cette évolution et cette difficulté dans l'évolution du dessin à l'étape où il faut à la fois réunir un schéma corporel homogène et en même temps séparer deux fonctions qui sont difficiles à réunir ensemble. Alors, je vais aller, continuer d'aller un peu trop vite pour vous expliquer les choses, mais je vais juste vous donner, en tout cas, le blocage des acquisitions liées au problème du dessin à cet âge-là. Et je vais constater, avec un dessin d'un garçon de 5 ans et demi, l'échec des processus qui se jouent à cet âge. À 5 ans et demi, Vincent est placé en urgence au foyer départemental de l'enfance parce que ses parents sont partis en laissant le chien et les enfants à la maison. On lui trouve un QI de 70, les parents vivent dans l'errance et la violence, voilà, des cas dramatiques comme on en voit de temps en temps malheureusement. Et lorsque je propose, donc à 5 ans et demi, une figure de bonhomme, Vincent a beaucoup de mal à tracer une simple figure têtard. Il s'y reprend à 3 fois. Et alors je m'aperçois, et c'est cette histoire-là qui me fait comprendre le processus, je m'aperçois qu'il commence par dessiner les deux pieds. Et puis, il n'arrive pas à enchaîner, il reprend une feuille, il redessine deux pieds, il essaie d'ajouter une tête, mais la tête, il ne la met que sur un pied et pas sur l'autre. Alors, il est obligé de recommencer une troisième fois et avec quelques gribouillages, il parvient à constituer sa figure. Et là, je comprends que Vincent ne dessine pas avec le même processus psychique que les autres enfants. Il reproduit un dessin, il le reconstruit, et du coup, il est plein de maladresse. Il fait la même chose avec les lettres de son prénom, dont certaines sont droites et dont certaines sont tordues. Le E est complètement couché à 90 degrés. Et coupé de l'élan créateur, coupé du plaisir, nous comprenons que le fonctionnement psychique de cet enfant est un fonctionnement en faux self. Il n'a pas intériorisé le processus, mais uniquement le résultat du processus. Il copie, comme je pourrais essayer de copier un caractère chinois, sans en comprendre le sens et les éléments. Évidemment, il serait plein d'erreurs. Voilà ce que nous apprend le chemin de Vincent et voilà ce que nous apprennent les dessins au moment de la moyenne section de l'école maternelle, au moment où il faut arriver à structurer psychiquement un dessin où des fonctions doivent être liés à des endroits différents du dessin. L'élément visage avec son caractère contenant, l'élément corps avec son caractère rayonnant, et tout ça qui ne forme qu'un, puisque pendant quelques erreurs, j'en oublie l'unité du corps, d'où ces erreurs qui n'arrivent qu'avec les enfants qui se débrouillent bien. Ceux qui copient ne copient pas les erreurs. Et nous avons au cœur de l'école maternelle cet apprentissage dont par ailleurs je vous ai dit un peu trop mal, un peu trop vite, à quel point il était certainement lié, très probablement assez fortement lié à la structure et à la structuration édipienne. Alors nous allons encore plus loin, nous arrivons à la grande section de maternelle, par exemple, nous arrivons à un schéma corporel complet. Je vais jusqu'à dire que c'est le couronnement de l'Édipe. Vous avez le droit de me croire ou de ne pas me croire. En tout cas, ce qui est très étonnant, c'est de voir ces petits couples qui sont désormais dessinés et dont un certain nombre sont des couples couronnés. C'est vraiment un schéma extrêmement classique de cet âge. Est-ce que c'est une façon symbolique de représenter une scène primitive? On a le droit de se poser la question. On peut aussi ne pas trancher par un oui complet, mais on a le droit de se poser la question. Nous arrivons à un schéma corporel complet. Nous avons en même temps un espace à trois bandes avec le sol, une scène centrale et le ciel au-dessus. Nous avons la possibilité de représenter le visible et le caché. Le verre va être à moitié caché par la bouteille ou un paquet, un personnage, des choses comme ça. Voilà, nous sommes arrivés au bout de l'expérience de l'école et de la classe maternelle. Nous avons aussi un investissement parallèle de l'abstraction. C'est une chose qui a toujours été oubliée dans le dessin de l'enfant, mais nous avons, alors un jour j'ai fait le compte là aussi, je suis arrivé à 15% à peu près de dessins abstraits, et encore beaucoup se partent à la poubelle parce que pour les adultes c'est réputé n'être rien, mais pourtant ils nous en donnent quand ils jugent qu'ils sont beaux, et en plus ils sont beaux. Ils commencent un petit peu plus tôt, ils commencent en même temps que le début, mais alors le début est encore plus compliqué à différencier d'un gribouillage. Et la caractéristique de l'abstraction, c'est d'arriver après la figuration. C'est pas un échec, c'est pas un gribouillage, c'est un choix. Le choix est vraiment clair lorsque l'enfant a une figuration qui est elle-même claire. Et là, nous voyons fortement un investissement dont il n'y a pas de doute, il est d'un ordre esthétique. Le jeu de forme et de couleur et le jeu de plaisir ne laisse pas de doute là-dessus. Nous sommes arrivés à ce que j'appelle l'âge d'or du dessin de l'enfant, là, à la fin de la petite enfance, à la charnière entre la petite école maternelle et la grande école, ou de la petite enfance et de la grande, la période de latence, tout ça. C'est le moment où d'autres explorations vont avoir lieu dans le dessin, l'exploration de la profondeur, de la troisième dimension qui va prendre du temps elle aussi. Et nous avons eu à ce moment-là beaucoup de choses qui ont été écrites, puisque le dessin a surtout été décrit à partir de cette période-là et très peu sur les dessins primitifs. Et j'ai beaucoup insisté, non pas sur le caractère réaliste qui a été... Ce qui a été surtout décrit, donc, c'est le progrès du réalisme dans le dessin de l'enfant, et on a trouvé que le dessin de l'enfant était parfait quand il atteignait le réalisme. Et le caractère essentiel des dessins de l'enfant à cet âge, c'est moins leur réalisme que leur fiction. Et nous assistons à un étonnant partage, notamment du dessin des garçons et du dessin des filles. Les filles qui nous dessinent des tas de scènes de paysages, éventuellement de promenades à la campagne, enfin des choses comme ça. Et les garçons qui nous dessinent des choses en partie farfelues d'ailleurs, parce qu'ils ont des machines complètement imaginaires et compliquées. Ils ont des monstres, ils ont des batailles. Roman rose et série noire. C'est étonnamment partagé. Nous avons un imaginaire qui est vraiment... Alors, c'est très compliqué de savoir quelle est la part de la culture. Vous savez, le problème, le débat sur les genres, trouve ici des arguments, mais les arguments décisifs, je ne résoudrai pas le problème avec vous ce soir, mais par contre, je vous dis que le dessin partage complètement cette question de la différence des genres. Et ce qui va être caractéristique à partir de ce moment-là, c'est que le dessin change d'objectif, en quelque sorte. Il change d'objectif, ce n'est plus le tracé que je vais essentiellement décrire, comme avec la figure tétard ou avec ce que l'on disait du dessin tout à l'heure de Vincent. Désormais, c'est le sujet qui est le plus important, beaucoup plus que la structure même du dessin. C'est le récit qui a lieu autour du dessin qui va caractériser. Nous ne traitons plus le dessin de la même façon dans la petite enfance et dans la grande enfance. Et alors, nous allons... Je vais vous proposer d'inscrire dans cette dynamique, du coup, le travail de thérapie qui va pouvoir se nouer. Le dessin va pouvoir éclairer un certain nombre de traumatismes graves. Et je vais vous dire qu'à cette époque, on attend à la fois trop et trop peu du dessin. On en attend beaucoup trop si on attend, par exemple, d'avoir une preuve objective d'un abus sexuel. Le dessin n'est pas une caméra cachée. Le dessin est le récit que l'enfant nous en donne. On ne peut pas en attendre des choses qu'il ne peut pas donner. Et beaucoup trop peu, et si on néglige tout le supplément d'éclairage que l'évaluation du traumatisme peut donner avec l'enfant. Alors, voici par exemple Michael, à moins de 6 ans, qui est victime d'abus sexuels graves et répétés, avec témoignages, aveux, incarcération. La mère demande la déchéance des droits paternels. Il n'y a pas de doute sur la réalité des choses. Hein. Faut toujours être clair sur suspicion ou réalité. Nous parlons de choses vraies. Et ce gamin, vif et futé, se présente et je lui propose ce que je fais souvent à cet âge, de dessiner un cow-boy sur son cheval. Alors il m'en dessine deux. Il y a papa cow-boy et maman cow-boy. J'invite ensuite à dessiner un paysage de son invention. Il commence par un trait vertical, il ajoute une boule en haut du trait et il s'avère que c'est un lampadaire. Il continue en parlant. Alors j'ai vu un poteau, là on va dire que c'est moi qui marche. Il se prend le poteau et voilà le tonnerre qui tape sur l'arbre et ça explose. Alors on a le poteau, deux arbres, le personnage au milieu. Alors là, avec la tempête, il barbouille, tout se trouve barbouillé de traits et ça tape sur l'arbre, ça explose. Les onomatopées aussi, très bruyantes, accompagnent une explosion de bleu. Oh là là, l'enfant, oh là là, le tonnerre, attention l'enfant, tout explose, oh là là, ce tonnerre. Il tire de sa poche un dessin plié qu'il avait déjà réalisé dans la salle d'attente, un bateau. Il rajoute rageusement la tempête et il me le donne. Je l'invite à dessiner la plus jolie maman qu'il sache faire. Il m'a déjà dessiné une maman. Hein. Il ajoute aussitôt un feu d'artifice, c'est-à-dire un gribouillis en haut à droite, en bas à gauche du dessin. Et aux deux coins de la feuille, et il me dit qu'elle regarde le feu d'artifice, ça va exploser. Et après, et alors chaque fois je donne de nouvelles feuilles, et après, c'est-à-dire un processus associatif, je le fais aussi avec les plus jeunes, hein. Alors il trace un serpent en rouge exclusif qui dévore un petit personnage. Et puis encore un dessin, il fait un loup toujours en rouge exclusif. Il termine la rencontre en me racontant spontanément un rêve. C'est un énorme fantôme qui veut le manger. Et il me montre aussitôt des petits bobos. À son nez, à sa main, à son pied, des minuscules, une petite... Et il me parle quand même de lui et d'un peu de traumatisme. Je revois Michael une nouvelle fois un mois plus tard. Il me tend un premier dessin réalisé dans la salle d'attente et il en fait deux autres. Je vais essayer d'apporter à Michael une position d'écoute et de respect. J'ai évité les questions directes et immédiates qui forcent les résistances et suscitent les dénis. C'est tout le mérite du dessin, souvent, d'éviter ces blocages et d'offrir un espace de jeu, ce mot winnicottien, dont Michael s'est emparé avec une belle richesse d'invention. Il n'a pas seulement dessiné. Il nous a parlé avec surabondance de bourrasque et de dévoration. Il a aussi introduit d'emblée sa maman, la maman cow-boy, cette mère à laquelle il s'était confié, et qu'il a entendu. Et nous avons répondu en lui proposant de dessiner la plus jolie maman. Et maintenant, après ce début en dessin, il m'explique avec satisfaction qu'il commence à savoir lire, ce qui signifie qu'il sait reconnaître toutes les lettres et qu'il assemble même ses premières syllabes. Michael vient de changer de registre. Nous venons de passer dans la réalité. Et là, il me demande tout d'un coup mon nom. Je lui réponds que je m'appelle Dr. Greg. Je lui demande le sien. Il répond en empruntant le nom de sa mère. Et il ajoute « J'ai pas envie de voir papa ». C'est pour ça que je dis ça. Mais si tu essayais de me faire comprendre un petit peu plus, Michael. Parce que je préfère voir maman. Tu préfères voir maman. Comme il m'a fait du mal, je ne veux plus le revoir. Pourquoi se voit-on, Michael? Qui a décidé? Pour parler de mon papa. J'ai envie de dire que maman, quand elle s'est disputée avec papa, elle a pleuré. Et tu sais pourquoi elle s'est disputée avec lui? Parce qu'il m'avait fait du mal. Eh bien, Michael, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je te souhaite tout simplement de continuer à grandir. Jonathan, au même âge, à 5 ans et demi, nous apparaît complètement écrabouillé. C'est un enfant chétif, sale, mal vêtu, et qui annonce qu'il désire manger, toujours un mauvais signe. Bilan psychologique lui donne un âge mental de 3 ans. Il a donc presque le double. Il se trouve un échec majeur avec abandonnisme, instabilité, avidité. Et naturellement, il y a déjà un certain temps qu'il y a des suspicions de maltraitance. Le signalement a été déclenché par une hospitalisation de Jonathan pour injection accidentelle de whisky avec une alcoolémie à 1,5 g à son arrivée. 8 jours plus tard, son jeune frère est hospitalisé pour hématome de l'hémiface, soi-disant provoqué par une simple gifle. Sa production graphique a le même niveau de retard que ses efficiences générales. Il ne comporte que des figures têtards totalement archaïques, ou même de simples figures rayonnantes comme un soleil, sans aucun commentaire, sans la moindre élaboration. Les cas les plus graves ne sont pas les plus parlants, mais habituellement l'inverse.
Merci à tous, merci Philippe.